Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, Marianne Paquette, derrière le micro, bien heureuse de vous retrouver, de vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Aujourd'hui, en deuxième partie de l'émission, on parle de cette nouvelle qui souvent engendre un vrai tsunami, que ce soit dans notre vie personnelle et auprès de nos proches, c'est-à-dire recevoir un diagnostic de cancer qui inévitablement va engendrer source de bouleversement, d'anxiété, et ce, autant pour la personne malade, la personne touchée par la maladie, que par tous ses proches, collègues, famille. Et juste le fait de pouvoir en parler, d'échanger avec d'autres personnes qui vivent le même genre de processus, ça peut aider à mieux gérer la situation, à améliorer nettement notre mieux-être, notre bien-être, et à mieux envisager les obstacles, les épreuves qui auront lieu dans les prochains mois, prochaines semaines, que ce soit les diagnostics ou tous les changements qui auront lieu dans le quotidien. La Fondation Virage souligne cette année ses 30 ans de présence, de dévouement auprès des personnes atteintes de cancer. Et tout à l'heure, je parlerai avec l'une des employées de la Fondation Virage, Daisy Delobel, qui, elle, travaille là et pourra nous parler de tous les services qui sont offerts pour les personnes atteintes de cancer. Mais tout d'abord, vous dire, et là, je parle de chiffres qui sonneront probablement des cloches ou titilleront votre curiosité. 200 événements, 235 auteurs en provenance de 10 pays et ce, partout à travers le monde. Eh bien, c'est ce que propose la 18e édition du Festival Métropolis Bleu qui s'en vient tout bientôt du 11 au 18 avril ici à Montréal. Donc oui, diversité à l'avant-plan parce que quand je vous parle de 10 pays, là, on parle du Mexique, on parle du Liban, on vous parle également d'auteurs qui viennent, d'auteurs britanniques, donc vraiment de partout, mais également, comme depuis 9 ans, un important volet gratuit, varié, alléchant pour les enfants et pour leurs parents, bien sûr. Peut-être en ce sens pour assurer la pérennité du festival, parce que si on donne l'envie de la lecture, de l'écriture aux tout-petits, bien, on sait qu'ils seront dans l'avenir de bons festivaliers pour le Festival Métropolis Bleu. Donc, j'en parle aujourd'hui d'écriture, de lecture avec William Saint-Hilaire, elle, présidente directrice générale du Festival littéraire Métropolis Bleu. William Saint-Hilaire, bonjour.
Bonjour Marianne, comment ça va?
Très bien, heureuse de vous parler aujourd'hui. C'est comme notre rendez-vous annuel, William.
Oui.
Tout juste, on fait toujours ça là, avant le festival, quelques jours avant, même pendant l'an passé, on s'est donné l'opportunité de parler de l'écriture comme outil thérapeutique. Et aujourd'hui, on parle de l'éveil, du goût à l'écriture, de créativité aussi, parce que vous, festival, pas festival, pendant l'année, vous avez mis sur pied des ateliers d'écriture auprès des enfants.
Oui, alors ça c'est le côté givré de mon travail, Mariam, parce que effectivement on a beaucoup de choses sérieuses à faire, comme des demandes de subventions, faut trouver des sous, faut faire des événements bénéfices, mais dans mon cœur à moi, qui suis aussi auteur, j'avais envie de renouer avec l'écriture, avec les tout-petits, et j'ai commencé par recruter les enfants de mes amis pour tester une nouvelle gamme d'ateliers interactifs qui, ma foi, en tout cas moi, m'ont fait bien rire, m'ont fait beaucoup de bien.
Donc, c'est la genèse de ces ateliers. Est-ce qu'il y avait des objectifs de, oui, pour s'amuser d'une part, de votre côté, William, mais est-ce que c'est un constat de se dire peut-être que ce goût-là ou cet intérêt-là auprès des enfants n'est pas nécessairement évident en premier lieu?
Il y a deux réponses. En fait, la première, c'est que c'est dans la mission, dans la génétique de Métropolis Bleu, de réunir les gens de tous âges autour du plaisir de lire et d'écrire. Donc, on retient les mots plaisir, écrire et lire. Bien entendu, c'est un, un projet dérivé directement du Festival des enfants TD Métropolis Bleu qui en sera sa 9e édition. Alors, si vous me permettez juste pour le mettre en contexte, c'est un festival, dans le festival, on s'adresse aux 0 à 12 ans. On s'intéresse aussi beaucoup aux 0 à 5 ans. Donc, vous avez parlé d'éveil. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à lire et à gribouiller sur une feuille. Et ce festival se déploie en même temps que Métropolis Bleu et ça offre au moins une centaine d'événements gratuits pour toute la famille. Or, ça, évidemment, ça se concentre du 11 au 17 avril cette année et ça revient à chaque année, comme vous l'avez mentionné, en avril. Mais nous, tout au long de l'année, la Fondation offre des programmes éducatifs et sociaux. On travaille en ligne, on s'intéresse aux jeunes à risque, avec un grand objectif de persévérance scolaire.
Oui.
Donc, pour moi, qui me cherchais un peu de bénévolat à faire et des activités d'écriture, ben c'était un naturel de dire, ben qu'est-ce que je pourrais développer avec des jeunes de 5 ans, j'en ai fait de 5 à peu près à 13 ans. Et sur différents thèmes. Donc, la genèse, c'est vraiment de poursuivre la mission de Métropolis Bleu tout au long de l'année, de le faire autant à la maison qu'en classe qu'à l'école.
Et les jeunes qui participent à vos ateliers, c'est important de le dire, ils sont gratuits. Hein? Vous avez parlé de bénévolat. Ben oui, c'est offert gratuit, ces ateliers. Comment vous recrutez les jeunes? Bon, je comprends bien qu'au départ, c'est les cobayes, c'était les enfants de vos amis. Maintenant, est-ce que ce sont notamment ces jeunes à risque que vous avez mentionnés ou pas nécessairement?
Pas nécessairement. Il y a des. J'ai eu un appel à un moment donné de la bibliothèque de Pointe-Claire qui voulait faire une activité. Alors, dans ce cas-là, j'avais des jeunes à la fois anglophones et francophones. Les mamans sont arrivées avec des poussettes parce que, bon, ils amenaient le plus jeune dans la poussette. Puis le garçon et la jeune fille ont participé à l'atelier. J'avais environ 8 jeunes auteurs en devenir.
Oui.
Et dans ce cas-là, j'ai commencé par lire un bout d'histoire que moi-même j'avais écrite. Et ensuite, je leur ai demandé... une chose que je fais souvent et que les parents peuvent faire fort facilement, quand on lit un conte pour les petits, il y a toujours des personnages, il y a toujours des histoires, il y a toujours des rebondissements. Et c'est vraiment pas interdit de s'arrêter à un moment donné puis de demander à l'enfant « Et toi, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu ferais si tu étais tel personnage? Et toi, Luc, si tu étais un super-héros, qu'est-ce que qui tu serais, toi? Et si tu pouvais avoir un super pouvoir? » Donc, on part, on s'inspire de l'histoire qu'on est en train de lire. Et Dieu seul sait qu'il y en a des histoires intéressantes, puis des livres à profusion. On a des auteurs au Québec extraordinaires. Mais on se permet de faire des petites digressions, de permettre à l'enfant de se l'approprier. Puis soi-même, comme adulte, de dire, ben moi, j'ai toujours rêvé d'être une princesse. Puis je serais une princesse qui ferait ceci ou cela. Donc, c'est ça, c'est une façon de fonctionner. Sinon, moi, quand je l'ai fait, je m'assois, ça me prend toujours, c'est très simple, ça me prend des feuilles blanches, beaucoup de stylos feutres, des craies, des crayons, en fait, tout ce qui fait de la couleur, et je raconte un petit bout d'histoire, je pars avec un thème, un personnage, puis après ça, on invente au fur et à mesure. Puis quand je vois que l'enfant est bloqué, je dis, ben, fais-moi un dessin. Toi, tu vas dessiner tel personnage. Puis là, moi, je prends des notes. Moi, je deviens le ghostwriter du jeune. Je lui demande, bon, puis qu'est-ce qu'il fait sur sa trampoline? Puis qu'est-ce qui peut arriver? Parce qu'il y a un voleur. Et puis, je leur explique aussi que dans toute bonne histoire, il faut qu'il y ait un arc. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin, une intrigue, puis une résolution. Moi, j'aime évidemment les happy endings dans ma vie. Alors, j'aime bien les fins heureuses. Je trouve que c'est les plus sympathiques. Et donc, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'on ait un souci, on a un problème, puis il faut qu'on trouve des solutions.
Oui. J'ai lu quelque part, William, que ce que vous favorisez, c'est au départ une introduction assez généreuse, assez faste, pour finir avec une conclusion un petit peu plus minimaliste ou frugale, même si c'est le mot que vous avez utilisé. Pourquoi donc ça?
Je pense que c'est dans ma personnalité. J'ai un cerveau un peu confus, un peu touffu, avec plein d'idées, puis j'ai de la misère à choisir. Au fur et à mesure où on jase, ben là, on simplifie l'histoire. Puis le temps court. Moi, je me suis rendu compte, j'étais peut-être un peu ambitieuse quand je travaille avec 2 ou 3 enfants autour de la table. Je me rends compte qu'après une demi-heure, 3 quarts d'heure, peut-être que c'est moi qui ai un déficit d'attention, mais on a fait le tour de la question, puis ils sont fatigués. C'est quand même accaparant comme exercice. C'est amusant, ça se fait bien. Mais pour tout parent, moi, ça fait longtemps, mes filles sont rendues à 20 ans, donc j'ai perdu un peu la main avec les plus petits. Mais pour en avoir fait quelques-uns, je me suis rendu compte qu'une heure, c'est un peu ambitieux.
Oui. Est-ce qu'il y a des difficultés des fois que vous avez rencontrées et peut-être des petites pistes là, parce que éventuellement on va s'adresser aux parents qui nous écoutent parce qu'ils auront peut-être envie eux aussi de mettre sur la table ce week-end un atelier d'écriture là pour leurs enfants.
Difficulté, je dirais que si on le fait à la maison, parce que je l'ai fait parfois dans des contextes de bibliothèque, c'est un peu plus calme. À la maison, évidemment, hein, on peut être dérangé par toutes sortes de bébelles. Un enfant veut jouer à l'ordinateur, l'autre veut être au PlayStation, il y a ceci, il y a cela. Donc, faut à un moment donné fermer les appareils puis dire, bon, OK, là, on fait cette activité-là. Je dirais donc trouver un moment de calme, d'un certain calme dans la maison. Je pense aussi, j'ai réalisé que souvent un des handicaps, c'est les parents.
Ouais.
Parce que les parents veulent, quand moi je l'ai fait avec des parents, des fois c'était des amis, des fois c'est des gens que je connaissais d'amis, donc bon, sans
peu
plus,
ou pas, ouais, voilà.
Peu ou pas. Et les parents veulent intervenir comme s'ils donnaient des cours ou comme s'ils faisaient des devoirs, alors que le concept, c'est d'être complètement déjanté. On peut, c'est une histoire inventée, on peut tout se permettre. On est dans l'imaginaire. Donc, l'écueil numéro un, c'est de vouloir dire, ben non, mais ça se fait pas, ben non, mais c'est pas possible, ou alors t'as fait une faute. Non, mais faut aller... Il faut s'amuser, là.
Oui. Un peu comme dans cet exemple où, avec Luca, vous avez créé l'histoire d'un chef qui fait du skateboard, oui, et qui mettait des copeaux de crayons, lui, dans sa recette de crêpes, ce qui lui faisait roter des arcs-en-ciel.
Oui. Alors, je dois avouer que roter des arcs-en-ciel, c'est de mon cru. À 50 ans, je me permets de roter des arcs-en-ciel. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a fait aussi une invention de... avec un autre enfant qui s'appelle Paul, qui a 7 ans, tout mignon, on avait dû inventer une recette de poison pour tuer un mauvais ninja, parce qu'on tue pas les bons, bien entendu. Mm-hmm. Et évidemment, dans la recette, ben, il fallait bien un peu de venin de serpent. Puis là, on faisait le tour de ce qu'il y avait dans la maison. Puis à un moment donné, moi, je lui ai dit, puis là, c'est là où j'ai vu les deux parents vraiment perdre connaissance. J'ai dit, mais là, ça va prendre du vomi dans ta recette. Alors moi, finalement, j'ai une âme d'enfant, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors je trouve que ça prend un peu de... Ça prend de la folie, puis il faut dire des niaiseries.
Oui.
Si on fait pas ça pour s'amuser, alors on est aussi bien de faire carrément juste des devoirs, là.
Oui. Et ce que l'on comprend bien, c'est qu'à travers ces ateliers, oui, d'une part, l'enfant s'amuse, là. Je pense que le degré fun est présent, et ça en premier lieu. Mais il développe pas aussi, à quelque part, une espèce d'estime de lui-même, c'est-à-dire de dire, moi, j'ai pu créer ça, ma créativité, elle est bien là, elle est bien vivante, parce que outre le plaisir, il y a d'autres bénéfices.
Oui, et puis on est tout à fait, c'est tout à fait indiqué de travailler le vocabulaire, de travailler les émotions, parce que dans les petites fiches parents que j'ai développées, il y a toujours des consignes aussi. Alors, on part avec, on établit certains personnages. Il faut pas qu'il y en ait trop. Il faut qu'il arrive une impasse. Il faut qu'il y ait des solutions. J'ai eu l'occasion, je sais que vous allez parler de cancer dans la deuxième partie de votre émission.
Oui.
J'ai eu l'occasion de travailler avec deux petites filles, dont la maman, était en traitement de chimio au même moment. Et je voulais pas, moi, aborder la peine trop directement, mais on a quand même abordé certaines émotions, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, il y avait une maman comme personnage dans l'histoire. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand une maman a besoin de réconfort? Est-ce que c'est toujours les enfants qui ont besoin de réconfort? Est-ce que des fois, les enfants peuvent être un super-héros? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils m'ont dit, ils donnent des câlins, ils rangent leur chambre, ils chantent des chansons. Donc, on a travaillé tout en douceur dans une palette d'émotions autour d'un enjeu familial qui était difficile sans le faire ouvertement ou directement. Donc moi, je trouve toujours que écrire des histoires comme ça en famille, comme parent avec un enfant ou grand-parent, c'est toujours l'occasion d'aborder des émotions.
Oui.
Et les personnages, c'est tout à fait dans l'esprit de naître et grandir,
oui,
de la Fondation Chagnon, d'apprendre aux très jeunes enfants à nommer, reconnaître les émotions qu'ils ressentent à travers les personnages.
Et d'ailleurs, dans le cadre du Festival littéraire Métropolis Bleue, il y aura des journées Naître et grandir. En quoi ça consistera, ces journées-là, William?
C'est une série de... On a environ 14 événements. On a quand même 104 au festival cette année, au Festival des enfants TD Métropolis Bleue. Et particulièrement la journée du dimanche, c'est une journée naître et grandir qui se passe en grande partie à la librairie Bric-à-Brac qui est dans Hochelaga-Maisonneuve, où on aura plusieurs auteurs jeunesse qui viennent faire la lecture aux petits. Ça s'adresse à des 0-5 ans environ par enfant. C'est gratuit, bien entendu, et on aborde les émotions. Il y a 4 grandes émotions, Marianne, dans la vie, qu'il faut apprendre à maîtriser dès que possible. La joie, la tristesse, la colère et la peur. Et il semble-t-il qu'à partir du moment où l'enfant est capable de la reconnaître, l'émotion, hein, qu'est-ce que tu sens? Puis on regarde les dessins de personnages. Ah, est-ce qu'il a l'air fâché? Est-ce qu'il a l'air triste? Ça nous aide, semble-t-il, à développer des compétences sociales. Et quand on est avec un ami, qu'on est fâché, ben là, on se dit, ah, qu'est-ce que je ressens? Donc, long processus qui mène vers la sagesse, n'est-ce pas, mais fort intéressant. Donc, tout ça pour dire que chez Bric-à-Brac, nous allons être dans l'exploration des émotions à travers de très jolies histoires pour enfants. Il y aura une belle murale aussi géante où parents et enfants seront amenés à écrire des mots, des expressions, à faire des dessins. C'est la grande murale des émotions. Et puis, il y a quand même tout plein d'autres activités, de spectacles littéraires, beaucoup, beaucoup de belles choses gratuites dans les maisons de la culture qu'on peut découvrir à metropolisbleue.org.
Oui. 45 bibliothèques participantes pour cette édition. C'est la 9e édition. Est-ce que ça a toujours été aussi vaste, je dirais aussi vaste, mais en même temps varié, l'offre, William?
Ça a pris de l'expansion lentement, mais sûrement. L'an dernier, notre belle Florence Allegrini, qui revenait d'un congé de maternité, qui avait été avec nous dans différentes fonctions. J'avais l'intuition que Florence, en tant que jeune, très jeune maman, serait allumée par le Festival des enfants, puis je lui ai confié la programmation. Alors, ça a été un boom parce qu'elle avait toutes sortes d'idées flyées, puis collaborateurs avec la revue Grilled Cheese, puis des cafés pour jeunes mamans. Puis, donc, on s'est mis à sortir un peu du réseau des bibliothèques, où on est encore très présent, mais il y a plusieurs autres lieux. On aime beaucoup travailler avec les librairies indépendantes. On va faire, par exemple, une journée fanzine à la Bibliothèque Guy Favreau, c'est bien ça, c'est le samedi après-midi, où c'est un parcours, presque une petite chaîne de montage, où l'enfant commence au début, puis à la fin, il va avoir produit son propre petit micro-magazine.
Mm-hmm.
Il va avoir écrit, bricolé, fait de la sérigraphie, il va avoir relié le tout, et il va être reparti avec son propre fanzine. Donc, il y a toutes sortes de choses, la poésie, de l'écriture, de la lecture, du bricolage et beaucoup d'amour.
Et beaucoup d'amour. Et on va terminer là-dessus, William. Un retour ou en fait un détour, je ne sais trop, aux mathématiques. Cette année, vous avez voulu mettre l'accent là-dessus en disant, oui, l'écriture, la lecture, c'est important, mais les maths aussi. Est-ce que c'est en lien avec la venue de cet auteur, Daniel Tammet, qui a écrit, je l'ai lu l'été dernier, « Je suis né un jour bleu », ce jeune Asperger, je dirais, extrêmement talentueux, notamment pour les mathématiques et les chiffres?
Oui. Alors, ça faisait peut-être un bon 2 ans que je souhaitais. On souhaitait inviter Daniel Tammet, mais c'est une superstar de l'écriture. C'est aussi un savant, c'est aussi un conférencier de grande réputation. On a fini par y arriver. Et du coup, ça nous a mis sur la piste mathématiques et littérature parce que j'avais autour de moi plusieurs profs de maths. Et ça m'a beaucoup fascinée de voir le lien incroyable. En persévérance scolaire, semble-t-il que très souvent, les problèmes que rencontrent les jeunes au niveau des mathématiques peuvent être liés à la lecture. C'est-à-dire des difficultés de comprendre les questions dans un examen, puis de la logique. Donc, il y a déjà un problème de lecture amènerait souvent des problèmes en mathématiques.
Ah oui, hein.
Et on a mélangé tout ça à la sauce Métropolis Bleue, bien entendu. On a fait un très beau concours au primaire et au secondaire à travers le Québec, invitant les jeunes à nous conter une histoire, une fiction dans laquelle il y avait un mathématicien célèbre, il y avait des disparitions, des choses étonnantes qui sont arrivées, et toujours une résolution de problème qui passe par la solidarité. Et là, dans la figure imposée, dans ce concours-là, il y avait un élève qui n'aimait pas les mathématiques. Et ça nous a donné deux lauréats, un au primaire, un au secondaire.
Mais de la même école.
Oui, coup de théâtre, c'est la même école. C'est pas arrangé que le gars des vues. Et nous aurons une exposition à l'Hôtel 10 avec les dessins et les illustrations et les textes d'une dizaine de lauréats, là, enfin.
Donc, du 11 au 18 avril à l'Hôtel 10, mais aussi dans plein d'autres lieux à Montréal, le festival Métropolis Bleue. Ce sera un plaisir de vous y croiser, William Saint-Hilaire, parce que vous en êtes la présidente directrice générale, métropolisbleue.org, pour prendre part à cette programmation. Merci beaucoup, William.
Encore merci, oui.
Bye-bye.
À bientôt.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Belle, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes agente auprès de la Fondation Virage et on avait envie d'en parler aujourd'hui ensemble parce que vous soulignez votre 30e anniversaire, ce qui prouve que la Fondation Virage, ça demeure une ressource qui est extrêmement précieuse pour les gens qui vivent avec le cancer, bien sûr. C'est quoi le besoin, les principaux besoins des gens qui vivent avec la maladie?
Alors, en fait, c'est d'avoir un service de soutien et de l'écoute, principalement.
Et je pense qu'à travers la Fondation, vous offrez ce soutien, cette écoute. Est-ce que ça se fait plus un à un ou par groupe de soutien?
Alors, ça se fait ou en individuel ou par groupe. En fait, on a différents groupes. On en a beaucoup quand même, là. On a des groupes de soutien, on a des ateliers de yoga, on a des ateliers de kinésiologie, des ateliers de massothérapie. On a des ateliers aussi d'esthétique. Avec des prothèses mammaires, également des prothèses capillaires qu'on offre aux différentes patientes.
Oui, parce que, bon, lorsque vous me parlez de yoga ou de massothérapie, j'ai l'impression que c'est une façon d'accompagner, de soutenir les personnes d'une toute autre manière que par l'écoute ou par la discussion.
Tout à fait.
Ça va vraiment ailleurs.
Oui, on va chercher, voilà. En fait, ils sont là, ils se retrouvent tous ensemble et puis ils se retrouvent justement pour pouvoir partager ce qu'ils traversent.
Mm-hmm. Est-ce que la Fondation est également présente après la période de maladie ou c'est vraiment pendant?
Oui, okay. On a justement un atelier qui est après le cancer, où là, en fait, c'est un atelier qui comprend 7 semaines consécutives, une fois par semaine, où on aborde justement l'après-cancer avec une nouvelle vie quelque part, la fin des traitements, à quoi on doit s'attendre, l'art de s'alimenter aussi, il faut réapprendre à s'alimenter après tout ça, un retour à la vie parce que ben il y en a qui ont dû quitter leur emploi, donc il faut retrouver un nouvel équilibre là-dedans, tout ce qui est la partie sexualité. avec les relations justement avec le conjoint, les impacts de la maladie et puis les traitements et puis tout ce qu'on a pu vivre durant tout ce qui a été avant et puis ben, se réadapter et adopter un nouveau mode de vie, on va dire.
Ouais.
Donc
je trouve
ça,
que...
c'est vraiment après le cancer.
Oui, c'est très important de le souligner pour avoir discuté avec des personnes qui ont vécu un épisode de cancer. Mmh. L'anxiété, elle est parfois encore là.
Oh, tout à fait.
Aussitôt qu'il y a un symptôme, une douleur, on s'est dit oh non, ça y est, encore.
Oui.
Et ça nous habite. Donc, très important aussi l'accompagnement
c'est
après.
Ça. Tout à fait. Oui, 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 nous, c'est ça. Alors, et c'est vrai que cet atelier-là a beaucoup de succès parce qu'en plus, à chaque semaine, il est tenu par une personne différente. On va dire tout ce qui est mm-hmm. pour réapprendre à s'alimenter, ça sera fait avec une nutritionniste. On a une psychologue aussi qui est là aux différents ateliers. Donc, oui.
Oui, une équipe multidisciplinaire,
tout
donc du côté de la Fondation Virage.
Tout
est-ce,
à fait.
Est-ce qu'il y a une petite pensée aux proches également qui soutiennent la personne?
Oui, alors même dans certains de nos ateliers, les proches sont conviés. On a un atelier de nutrition, donc on va dire les conjoints ou la famille peuvent assister à ces différents ateliers. Donc oui, oui. On est là aussi pour les écouter aussi beaucoup
oui.
et être là pour être, un organisme de soutien pour pouvoir leur fournir toutes les ressources dont ils pourraient avoir besoin également.
Oui. Et vous, qui vous soutient du côté de la Fondation? Est-ce que c'est un enjeu, le financement?
Oh mon Dieu, on aimerait, voilà, on se débrouille, on essaie d'amonceler des dons un peu à droite et à gauche. Mais on est vraiment, quelque part, on est autonome là.
Oui.
On se débrouille pour récupérer des dons par nous-mêmes.
Et pourtant, on le voit après 30 ans, si
oui,
vous êtes toujours là, c'est parce que le besoin...
On est fiers de ça, en tout cas.
Oui, voilà. Pour le 30e anniversaire, quelles seront les différentes activités, Daisy?
Alors, ben, écoutez, durant cette année-là, on fait des activités bien spéciales, genre on a fait un yoga Saint-Valentin.
Mm-hmm.
Il va y avoir un yoga printanier qui va avoir lieu pour le 27 mai prochain. Il y aura un yoga spécial aussi pour l'Halloween, pour Noël, et on va essayer de faire une activité bien spéciale pour récupérer des dons justement pour le mois de septembre, qui serait éventuellement, ben là c'est encore un grand projet, là, bouge donc, on appellerait ça,
uh-huh.
et puis on mettrait en fait ben, tous les professeurs de yoga, kinésiothérapie, massothérapie, puis en fait ça serait des petites stations, puis chacun en fait, ben, ou chacune des personnes qui seraient atteintes de cancer pourrait bénéficier de cette journée-là spéciale à découvrir toutes les activités puis d'avoir les exercices qui correspondent à leurs besoins.
Et de le faire avec le plaisir aussi,
oui,
avec
oui,
les gens de la
ça.
Famille.
Et tout à fait. Puis de récupérer, on va dire, justement, quelques dons ben, pour continuer à fonctionner dans le meilleur des mondes.
On vous le souhaite et on invite nos auditeurs à consulter viragecancer.org, Daisy.
Merci beaucoup à vous.
Daisy Delobel, agente du côté de la Fondation Virage. Un très bon anniversaire
Merci
à vous.
Merci beaucoup. Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté, derrière sa console, c'est Marianne Paquette, derrière le micro. Demain, je discute avec Anne-Marie Touga, elle est psychoéducatrice, et on parle de revenir à l'école après une période de maladie, et ce pour les enfants, et également le syndrome de Charles Bonnet avec le docteur Jean-Pierre Chartrand. C'est un rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.